Et cet après-midi, on va parler sécurité, et d'abord de la vôtre, parce que vous vous intéressez beaucoup à la sécurité de vos administrés, mais il faut penser aussi à celle des élus, et on a bien vu malheureusement les événements qui se sont produits avant l'été, et avec de l'agressivité, avec des usagers qui sont de plus en plus éruptifs. Et il faut aujourd'hui pouvoir répondre à ces problèmes avec un protocole aujourd'hui qui existe, qui est relatif au traitement des infractions et atteintes faites aux élus. Et pour en parler, je vais inviter à nos intervenants de nous rejoindre, en commençant par Alexandre Rossi, qui est le procureur de la République. Monsieur le procureur, rejoignez-nous. Nous serons également avec Philippe Surlapierre, qui est commissaire de police, directeur départemental de la sécurité publique du Lot. Monsieur le directeur, prenez place. Le colonel Bertrand Laudet, commandant du groupement de gendarmerie du Lot. Et puis madame la préfète, Claire Rollin, qui est avec nous. Et puis j'invite bien sûr Jean-Marc Vézousfort, votre président. Avec, Monsieur le Président, la nécessité aussi de comprendre l'actualité de ce sujet. Hein, elle a parfois été dramatique pour certains de vos collègues. On l'a vu au moment des émeutes urbaines, mais pas seulement. Hein, tous les territoires sont concernés.
On a souvent l'impression d'être encore un petit peu préservé quand on voit tout ce qui peut arriver dans le reste du pays, quand on voit ces drames... qui sont relayés par les médias. Il faut qu'on soit vigilant, bien évidemment, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que à la fois vous avez une société qui est de plus en plus revendicative, qui est parfois agressive, qui est parfois aussi soumise à la colère et qui cherche évidemment un interlocuteur pour pouvoir exprimer cette colère-là. Et vous avez cette montée des incivilités qui met les élus en difficulté, et on ne s'est pas engagé sur un mandat pour qu'on porte atteinte à sa sécurité, voire aussi à la sécurité de la famille. Parce que c'est souvent un élément qui me remonte, c'est la difficulté que ça peut poser pour les proches qui, évidemment, vivent déjà ce mandat de manière difficile, parce qu'un élu est quelqu'un d'extrêmement engagé, donc il prend sur son temps... de la famille, et si en plus vous rajoutez que ça peut vous mettre en difficulté et en sécurité, c'est un élément qui peut favoriser chez les élus ce sentiment de dire « est-ce que ça vaut vraiment le coup de m'engager ?» Et donc on le voit, on commence à avoir une augmentation des démissions, alors qui ne sont pas liées qu'à ça, qui sont souvent plus marquées chez les conseillers que chez les maires, qui ont quand même le sens de l'engagement. Mais si on n'est pas vigilant sur ce phénomène, on risque d'avoir une crise de l'engagement des élus locaux. Et aujourd'hui, je considère pour ma part qu'on a besoin plutôt d'avoir plus d'élus locaux que moins d'élus locaux. Pour certains qui s'interrogeaient de savoir si 35 000 communes, c'était pas trop, si 500 000 élus locaux, c'était pas démesuré, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous posez la même question avec les associations? Bien sûr que non. On a forcément besoin de ces élus qui sont la plupart bénévoles pour assurer ce lien social et être ce que j'évoquais ce matin, c'est-à-dire les amortisseurs de la colère. Donc pour cela, on a besoin d'être soutenus. Il y a évidemment la question du sentiment que peuvent avoir certains élus, du sentiment que certains se sentent dans l'impunité totale, parce que la sanction... parfois on peut hésiter à la prendre, il faut aussi qu'elle soit graduée, hiérarchisée. Évidemment que lorsqu'on est bousculé, on ne peut pas souhaiter non plus, et d'ailleurs les maires ne le faisaient pas toujours remonter, de pouvoir mettre en difficulté son citoyen. On voit bien qu'il peut y avoir des personnes en difficulté qui regrettent ensuite leur geste. Donc il faut qu'il y ait une hiérarchie, mais je crois qu'à un moment donné, il faut rappeler quand même que toute atteinte qui peut être portée à un élu local, c'est une atteinte à la République et elle n'est pas acceptable. Donc nous avons, en tant que sénateur cette fois-ci, voté une proposition de loi, j'en parlais ce matin, pour regarder notamment ce niveau de sanction, faire en sorte qu'il n'y ait plus ce sentiment d'impunité. Mais je crois qu'il faudra aussi aller plus loin, avoir bien conscience que les élus sont souvent en première ligne parce qu'on leur a transféré leurs compétences, parce qu'on leur a transféré le pouvoir de décision, et donc ils deviennent les interlocuteurs lorsqu'il y a une difficulté. Et puis faire en sorte aussi que voilà, les règles soient là et qu'elles puissent être respectées, qu'on puisse faire remonter plus facilement. Et c'est tous les outils qui vont nous être proposés. Je remercie chacune et chacun de sa mobilisation sur le sujet dans ces temps un petit peu troublés. Nous avons besoin de faire corps.
Merci, Monsieur le Président. Alors, des outils, des dispositifs, on va en parler. Et on va surtout essayer de comprendre comment vous pouvez aussi solliciter l'appareil de l'État, la justice, la gendarmerie, la police nationale et bien sûr l'administration préfectorale et mieux connaître ces dispositifs et puis aussi répondre aux questions que vous souhaitez poser aux intervenants de cette table ronde car comme depuis ce matin, ce débat il se fait avec vous. Un protocole relatif au traitement des infractions et atteintes faites aux élus. Alors, Alexandre Rossi, je vous présentais, procureur de la République, peut-être nous dire quels sont ces dispositifs et quels sont les outils mis à la disposition des maires et des élus locaux du département.
Merci à vous. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier monsieur le sénateur, madame Anicot, la directrice de la MF 46, de m'avoir invité. Et surtout d'avoir répondu favorablement à ma demande de venir vous exposer ce que, monsieur le sénateur, vous avez évoqué le mot « outil ». Et je pense que c'est vraiment un outil qui est mis à votre disposition. Alors avant de vous expliquer au niveau judiciaire quel est cet outil, au niveau des présentations, donc ça a été fait, je suis le procureur de la République du Lot. Je suis à la tête d'un petit parquet, on n'est que 3 magistrats, et dans un tribunal où il y a 10 autres magistrats du siège, et magistrats du siège qui, eux, vont éventuellement avoir à condamner la personne ou les personnes qui seraient à même de vous avoir agressé, de vous avoir menacé, de vous avoir intimidé, c'est-à-dire d'avoir commis des infractions à l'endroit des élus. Je dis ça parce que on peut avoir cette volonté de monsieur le sénateur évoqué de supprimer ce sentiment soi-disant d'impunité, mais il faut qu'à la fin on ait une décision judiciaire qui vous consacre en tant que victime. Donc je vais vous parler de cet outil, je vais vous parler de ses limites et je vais vous parler dans un troisième temps, quelque part, de son utilisation. Le 11 juillet 2023, sous l'égide du procureur général près la cour d'appel d'Agen, qui d'ailleurs était venu...
Absolument, il y a 2 ans au congrès des maires du Lot.
Il était venu au congrès des maires du Lot pour évoquer aussi un autre protocole, mais je pense que j'en parlerai en fin d'intervention. Les 3 parquets de la cour d'appel d'Agen, les 3 colonels de gendarmerie, les 3 directeurs départementaux de sécurité publique ont signé un protocole avec les 3 AMF pour mettre en place cet outil qui va vous permettre de plus facilement porter à la connaissance de la justice des faits dont vous seriez victime. Alors, logiquement, je prends le cas ou dans le cas de vos attributions, vous êtes outragé, vous êtes menacé, vous êtes violenté, la première chose que vous pouvez avoir comme réaction, c'est de ne rien faire. Et évidemment, cet outil est destiné à vous pousser peut-être à faire quelque chose, puisque on peut évoquer, alors monsieur le sénateur l'a dit, on n'est pas sur un département où on s'en prend largement, et comme dans d'autres départements, je m'en félicite, au niveau des élus, mais si ça n'est pas porté à la connaissance des autorités judiciaires, on ne pourra rien faire, y compris les forces de police, de gendarmerie, qui sont saisies par mes services pour diligenter des enquêtes. Encore faut-il qu'on soit au courant. Donc le protocole prévoit que vous avez toujours la possibilité d'aller vers vos gendarmeries, votre commissariat, si vous êtes en zone police, mais essentiellement avec les gendarmes, puisqu'ils couvrent beaucoup plus de communes que le commissariat de Cahors. Tout simplement pour aller porter plainte. Et ensuite, vous portez plainte et c'est une procédure judiciaire qui s'enclenche. Vous avez la possibilité aussi, si vous êtes, je ne sais pas moi, hésitant, est-ce que vraiment ce dont j'ai été victime est une infraction, de porter ces faits à la connaissance de l'AMF. Et l'AMF 46 est un interlocuteur privilégié du parquet. Enfin, moi, je reçois des mails de l'AMF, des coups de fil de madame Alicot, pour ne pas la citer, tous les jours. Donc l'AMF peut porter à ma connaissance des faits ce qu'on appelle un article 40, un signalement, où je suis avisé qu'il y a eu des faits commis auprès à votre préjudice. Une fois que je suis au courant de ces infractions, je diligente une enquête judiciaire, et ensuite c'est quelque chose qui se fait, je veux dire malheureusement, banalement, avec les gendarmes et les policiers. Le protocole aussi prévoit que, au-delà du soutien que vous pouvez avoir de l'AMF, moi je peux aussi saisir une association d'aide aux victimes. Et d'ailleurs, je vois Madame Mesté vraiment dans mon axe.
Hein, qui voilà, la présidente de France Victimes, qui est dans l'accompagnement de ceux qui ont à...
Pas la présidente, voilà, mais qui est la cheville ouvrière de l'association France Victimes, et qui est là aussi une partenaire privilégiée du parquet, et qui est là aussi pour vous orienter vers des psychologues, et parfois pour vous dire aussi, dans ce dédale judiciaire, parce que c'est vraiment, même en tant que procureur, je le reconnais, peut vous donner des informations. Qu'est-ce que va faire le procureur? Est-ce qu'il va poursuivre? Est-ce qu'il va classer? Est-ce qu'il va faire une comparution immédiate? Voilà, pour vous essayer de vous aider dans vos démarches judiciaires, en plus de celle de l'AMF 46. Le protocole ensuite prévoit que l'AMF 46... qui ne serait pas au courant de l'atteinte physique ou de la menace envers l'élu, est informé des suites judiciaires et peut se constituer partie civile à l'audience. Et ça, c'est capital, puisque déjà, ça permet à ce que l'AMF diligente un avocat, et vous aurez donc le soutien de l'avocat, éventuellement de l'Association des maires de France, du Lot. Et ça permet aussi, ça pour le vivre tous les jours dans les audiences, ça permet aussi de contrebalancer le fait qu'il n'y ait pas qu'une seule partie à un procès. Il y a le procureur, le juge, le greffier, le prévenu et son avocat. Et parfois, il n'y a pas la victime. Donc le prévenu, à l'audience, il peut raconter ce qu'il veut, même s'il y a une procédure. Mais voilà, donc vous avez quand même... un avocat qui représente le maire, qui représente les intérêts de tous les maires, qui peut se constituer partie civile et qui peut donner au tribunal des informations de contexte. Voilà, que moi je ne pourrais, que j'aurais peut-être oublié, que j'aurais pas insisté. Voilà. Donc là, l'AMF est au courant et peut se constituer partie civile en soutien de vos intérêts. Voilà. Alors sur la présentation du protocole. Avant de peut-être parler de ses limites, s'il y avait des questions.
Voilà. On prendra les questions peut-être après un tour de table, monsieur le procureur. Justement, voilà le contexte, et puis cet outil judiciaire qui existe. Après, comment il se décline en zone gendarmerie, en zone police? On va commencer avec vous, Philippe Surlapierre. Vous êtes commissaire et directeur départemental de la sécurité publique dans le Lot. Cette relation avec les élus, il y a ce protocole, mais il y a des actions que vous menez au long cours aussi avec les élus.
Oui, je vous remercie. Bonjour, madame et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, adjoints aux maires, conseillers municipaux, mesdames et messieurs. Oui, donc en propos liminaire, je voulais vous dire que l'accueil et la prise en charge des élus de la République victimes d'infractions pénales constituent un objectif prioritaire pour les services territoriaux des forces de sécurité intérieure et donc de la police et de la gendarmerie nationale. À ce titre, et conformément aux instructions ministérielles, la direction départementale de la sécurité publique du Lot met en place ce qu'on appelle un pack de sécurité pour les élus, qui vient en complément d'ailleurs, et qui développe des dispositifs qui complètent le protocole qui a été signé par l'AMF avec le parquet. Donc un pack de sécurité au profit des élus menacés ou victimes d'une infraction. Et en tant que directeur départemental, je suis votre référent, enfin le référent des élus de la zone police nationale. Et en mon absence, la commandante Isabelle Souti, mon adjointe, prend le relais.
Alors ça commence par de la prévention aussi.
Oui. Alors c'est quoi le pacte de sécurité? Bon, le procureur en a parlé. Il y a déjà une partie judiciaire avec un traitement prioritaire des procédures judiciaires. Si vous êtes victime, en tant qu'élu, le procureur vient de l'expliquer, mais ce traitement prioritaire sera accompagné également d'un entretien d'évaluation des risques. Alors c'est un entretien que nous mènerons personnellement, ensemble, afin de recueillir à la fois les éléments de contexte et les éléments permettant de caractériser les faits. Cela sera l'occasion également de discuter et d'évaluer ensemble les mesures de protection nécessaires. Et à l'issue, donc le questionnaire de cet entretien sera transmis à Madame la préfète.
Voilà, on est sur l'ordre des menaces. Hein. C'est des choses comme ça, des messages qui peuvent être mis sur Internet, des choses qu'on a entendues. Et donc déjà, être alerté sur les menaces.
Oui, tout à fait. Le but, c'est vraiment d'entretenir une relation de proximité entre l'élu et les forces de sécurité intérieure, et moi-même, en cas de menace. Alors, si la menace est avérée, on a un dispositif, on évalue, et selon le degré de menace, on peut mettre en place une sécurisation, notamment qui peut être mise en place sur votre domicile avec des rondes et patrouilles.
L'important, comme le disait Jean-Marc Vesoufort, c'est de pas rester inactif aussi. Hein. C'est il y a ce qu'on appelle des signaux faibles, et il faut y être attentif.
Oui, tout à fait. Ça, c'est tous les signaux faibles. Vous avez plusieurs dispositifs. Vous les faites remonter. Vous pouvez les faire remonter au parquet. Mais nous, on est à votre écoute. Et il faut vraiment ne pas hésiter. Ce contact, on doit l'avoir. Alors, en termes de prévention également du risque, le pacte de sécurité prévoit aussi la possibilité d'inscrire vos coordonnées téléphoniques et votre adresse personnelle dans un logiciel de gestion des appels 17.
Voilà, ça c'est très important. Écoutez bien de quoi il retourne. Hein. Vous pouvez justement avoir une relation directe grâce à cette inscription. Hein.
Donc c'est pour garantir une réactivité maximale et une intervention priorisée. C'est ce qu'on appelle l'alarme élue. La gendarmerie développe un dispositif tout à fait similaire. C'est d'une importance capitale. Hein. Ça veut dire que dès que vous appelez, avant même que vous ayez le temps, ou si vous êtes dans l'impossibilité de donner votre adresse personnelle, la patrouille, l'équipage police-secours pourra déjà se mettre en route.
Donc vous avez renseigné votre numéro de téléphone, vos coordonnées. Si vous appelez, immédiatement, on sait qui a appelé et il y a une réponse qui est diligentée.
Donc à ce titre, donc les maires, pour ma part, de la zone police, ont été personnellement contactés individuellement. Enfin, c'est très récent. Et on met en place ce dispositif qui je pense, est quand même un gage de réactivité. Alors, en complément, si vous le souhaitez ou si la menace le justifie, on peut mettre en place, par rondes et patrouilles, une surveillance à la fois... Alors, soit de votre domicile, si la menace est avérée, de locaux administratifs ou de permanence électorale. Hein. Donc ça se fait bien sûr en toute discrétion sur la base de rondes et patrouilles.
Voilà, merci. Et il y a aussi bien sûr des actions de prévention que vous mettez en œuvre, qui vont être de la formation. Il y a les élus, mais il y a aussi les services municipaux qui sont en première ligne avec des usagers qui peuvent être violents. On en parlera tout à l'heure peut-être dans les échanges. On va passer la parole à votre collègue, au colonel Bertrand Laudet, qui est le commandant du groupement de gendarmerie du Lot. Alors toute cette zone gendarmerie, là aussi, qui organise la relation avec les maires et les élus locaux.
Bon, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je commande le groupement de gendarmerie départementale du Lot depuis le 1er août. Et donc je dirige les 343 gendarmes qui couvrent l'ensemble du département grâce au maillage territorial des 23 brigades qui sont sur vos communes et dans vos cantons, dans vos territoires. Voilà, donc je vais développer trois points si vous le permettez. Le premier, je parlerai en amont du protocole, ce que la gendarmerie peut vous offrir. Le second point concernera le protocole lui-même. Et enfin, je vous parlerai de l'offre de service que la gendarmerie vous propose. Alors tout d'abord, en amont du protocole, je pense qu'il ne faut pas attendre la crise pour développer le lien de confiance, de proximité que l'on doit avoir entre le maire, ses adjoints et la gendarmerie. Il est nécessaire que vous connaissiez tous le numéro de votre commandant de brigade, Je pense que vous le connaissez tous. Donc il y a un référent atteinte aux élus, c'était demandé dans le cadre du protocole, mais je pense qu'il est important d'entretenir ce lien entre le commandant de votre brigade et vous, maire ou premier ou deuxième adjoint de la commune. Donc vous devez avoir ce numéro de téléphone. Vous devez également avoir le numéro du commandant de compagnie, je pense que c'est également important. Donc le commandant de compagnie qui se situe au niveau de l'arrondissement et qui sera même éventuellement de répondre à vos questions. Quant à moi, je me situe plus au niveau des communautés d'agglomération ou communautés de communes. Donc j'ai commencé à faire le tour des 9 communautés de communes ou communautés d'agglomération. J'ai dû en voir 3 ou 4. J'espère pouvoir faire les autres avant la fin de l'année. Mais en tout cas, je m'adresse aux présidents de communautés de communes ou communautés d'agglomération. Pareil, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a des sujets et à me faire passer des informations. Moi aussi, je suis preneur. Parfois, à Cahors, je suis un peu loin du terrain et ça me permet d'être amené à certaines réalités et de pouvoir après réorienter le travail de mes brigades. Le second point, donc toujours en amont du protocole sur lequel je voulais insister, c'est l'inscription au SIP, le SIP. Donc c'est l'équivalent de ce que vous a présenté le commissaire. Donc c'est un logiciel que l'on a au sein du COERG et qui nous permet d'identifier la personne qui appelle. Donc c'est une démarche volontaire de votre part pour être inscrit au SIP, au SIP. Donc je vous demande, si vous êtes intéressé, de vous tourner vers votre commandant de brigade pour demander cette inscription, et on le fera le plus rapidement possible. Ça nous permet de réagir rapidement et efficacement si vous êtes soumis à certaines violences notamment.
Voilà, là encore une démarche volontaire, hein, il faut le faire et effectivement ça va conditionner la rapidité de la réponse. Ça va vous faire gagner du temps, colonel.
Tout à fait. Sachant qu'actuellement il n'y a pas beaucoup de maires ni d'adjoints qui sont inscrits au sein du SIP. Donc je vous incite, si vous le souhaitez, à faire la démarche. Donc voilà ce que je voulais dire donc en amont du protocole. Cultiver, entretenir cette proximité entre vous et mes équipes sur le terrain. Le second point concernera donc le protocole. Je reprends les termes, hein, c'est dans le protocole est inscrit des réponses rapides, fermes et visibles. Donc l'impératif pour moi et mes équipes, c'est d'être informés rapidement de tout fait. Donc dès que vous avez un chantage, dès que vous avez une menace, dès que vous avez une intimidation, si vous ne savez pas si vous devez porter plainte, n'hésitez pas à vous tourner vers le commandant de brigade. Il sera à même de vous conseiller, de vous orienter sur la démarche à suivre. On pourra très rapidement mettre en place des patrouilles. Ça, je suis en mesure, moi, j'ai des moyens de réorienter mon service et de mettre en place des patrouilles pour répondre à ce besoin de rapidité, de fermeté et surtout de visibilité. Je donnerai l'exemple de la commune d'Assier, sur lequel il y a eu un événement donc il y a quelques semaines. Le maire donc a fait la bonne démarche en contactant très rapidement le commandant de la communauté de brigade de l'Hivernon. Celui-ci donc s'est tourné vers nous. Alors, il a rapidement reçu le maire. Il s'est tourné vers nous en disant qu'il y avait des menaces envers le maire, envers son...
Voilà, c'était le 7 octobre, hein, ouais. Faut le rappeler. Bon, tout le monde est au courant, je pense, mais le maire prête une salle. Il y a une contestation par rapport aux gens qui vont occuper la salle. Mmh. Et le maire se retrouve attaqué très, très violemment sur les réseaux sociaux. Ça commence comme ça, généralement.
Tout à fait. Donc, il y a des menaces envers lui, mais également envers ses personnels de la mairie, et voire même envers sa famille, ou en tout cas une inquiétude. Donc ça, c'est le jeudi, la manifestation, enfin la manifestation doit avoir lieu le samedi. Donc dès le jeudi soir, on est en mesure de mettre en place des patrouilles, le soir, la nuit, le vendredi et le samedi. Voilà, donc on a pu réagir assez rapidement parce que le maire s'était tourné vers son commandant de communauté de brigade.
Et là encore, la prévention, puisque ça a permis de faire descendre un peu la pression et puis de trouver des accords pour supprimer cette crise, la surmonter.
Effectivement, la contre-manifestation qui était prévue le samedi n'a finalement pas eu lieu. Alors, je ne sais pas si c'est l'action de la gendarmerie, mais en tout cas, ça peut-être contribuer à faire descendre la pression. Le troisième point, mais peut-être qu'on y reviendra après, c'est l'offre de services que l'on propose.
Voilà, on va peut-être voir aussi très concrètement en matière les uns et les autres de formation, d'acculturation sur ces problèmes qui peuvent surgir. Alors, Madame la Préfète, c'est vrai que le département du Lot semble un peu préservé, et heureusement, et tant mieux, ça se met en route tout seul. Mais bon, on voit bien à partir de cet exemple tout récent que tout cela est possible. Et puis malheureusement, ce qui se passe dans d'autres départements aussi qui peut surgir de déséquilibrés ou de gens malveillants, c'est une réalité.
Oui, non, tout à fait. C'est une réalité et j'incite vraiment chacune et chacun à être très vigilant sur sa propre sécurité et la détection des signaux faibles, comme l'ont dit les différents intervenants. Parce que quand une crise est susceptible de survenir et que nous avons une atteinte face à un élu ou une menace face à un élu, on a besoin en fait de réagir de manière rapide. Et si on peut avoir, disons, une information qui montre que l'on va se diriger vers une crise, évidemment, ça nous aide à adapter le dispositif et la réponse. Et le cas du maire d'Acier est un cas emblématique de la façon en fait, dont nous sommes arrivés à gérer le continuum, qui est en gros prévention, signaux faibles, action, réponse, dépôt de plainte et ensuite suite judiciaire qui seront évidemment laissées aux soins de la justice. Et ça permet, ça a deux effets. Le premier, c'est de pouvoir vous rassurer, vous, quand vous faites l'objet d'une telle atteinte. Et c'est aussi de pouvoir rassurer, par exemple, vos agents dans la mairie, s'ils sont concernés, mais aussi vos familles. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il ne faut pas négliger, qui est que les menaces et les atteintes qui peuvent être dirigées contre vous, elles vont aussi avoir un impact sérieux sur vos proches. Donc on est là en service de l'État, que ça soit l'administration, la police, la gendarmerie, la justice, pour aider et assurer ça. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que dans ces affaires de menaces et d'atteintes à l'intégrité physique des élus, il y a des effets de contamination que l'on peut observer. Quand on se retrouve dans des situations d'extrême tension, quand on se retrouve dans des événements comme par exemple les émeutes que nous avons connues fin juin, début juillet, et qui heureusement n'ont pas concerné notre département, on voit bien que dans une crise aiguë, à un moment, il peut y avoir des menaces ou des atteintes qui sont portées contre les élus, tout simplement parce que vous représentez la République. La République, ses valeurs et tout ce que ça emporte. Et donc, c'est extrêmement important pour les pouvoirs publics qu'on ait une réponse qui soit évidemment adaptée et à la hauteur de la menace à laquelle vous faites face, mais qui soit aussi une réponse adaptée parce qu'elle doit être dissuasive vis-à-vis de ceux qui voudraient commettre des actes similaires vis-à-vis d'autres élus. Donc, je vous encourage, chacune et chacun d'entre vous, vraiment à cette responsabilité individuelle qui est d'utiliser à fond les dispositifs qui sont déployés par l'État, que ce soit police, gendarmerie, justice, et qu'on puisse comme ça être efficace dans la réponse que nous pouvons vous apporter. Voilà, je vous remercie.
Merci, Madame la Préfète. Alors, Monsieur le Procureur, Madame la Préfète a parlé du continuum de sécurité. C'est très important et il faut comprendre de quoi il s'agit.
Alors, sur le continuum, moi, je vois l'idée de suivi. Parmi les récriminations qu'on peut faire envers la justice, et elles sont ô combien nombreuses, j'en suis tout à fait conscient, on dit souvent que quand on porte plainte, après, on ne sait plus ce qui se passe. On ne nous répond pas, il se passe des semaines, il se passe des mois, on ne nous avise pas, il y a un procès, on n'est même pas au courant, le procureur, il a classé, on n'est même pas au courant, on ne sait pas pourquoi il a classé. Bon. L'existence de ce protocole permet un suivi. Parce que si vous portez plainte par le biais naturel, qui sont les policiers et les gendarmes, moi, je suis immédiatement avisé. On a, dans mon équipe, j'ai un juriste assistant qui est parmi nous, M. Mazaz, qui ne fait que ça.
Voilà, il peut se lever pour que vous le voyez.
Voilà. D'ailleurs, voilà, Monsieur Mazaz, un de ses rôles, il en a beaucoup, et de venir à votre rencontre aussi. Il va se déplacer, il l'a déjà fait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, dans les mairies. Il va venir à votre rencontre pour prêcher encore la bonne parole que je suis en train de vous dire. On réalise aussi une gazette qui est adressée à l'AMF tous les trimestres et qui, en principe, va dans toutes les mairies. Et d'ailleurs, tout ce que je suis en train de dire, et tout ce que les autres intervenants sont en train de dire, la dernière gazette qu'on a rédigée avec M. Mazaz, c'est le protocole. Donc, vous aurez... Donc je sais qu'il y a des maires qui s'en sont déjà appropriés, qui ont même demandé s'ils pouvaient le diffuser dans leur mairie, voire à leur administrer. Voilà, donc il y a déjà cette formation. Je reviens sur le suivi. Si les policiers et les gendarmes prennent une plainte, je suis immédiatement avisé. Il y a un canal par M. Mazaz. Il y a une sensibilisation de mes collègues. Hein. Si vous utilisez aussi la boîte qui est spécialement, la boîte mail qui est spécialement réservée aux élus, hein, alors on sait qu'elle a un nom compliqué, hein, c'est élus.mp.tjcahors@justice.fr. Ça, on vous l'a communiqué dans le cadre du protocole justice de proximité que monsieur le procureur général était venu, entre guillemets, vendre il y a 2 ans. Hein, donc, cette boîte mail, elle existe et elle permet de faire un suivi. Et même, on s'est engagé, donc dans le cadre du protocole de justice de proximité, de vous avertir des évolutions au moins à 6 mois. Donc, si au bout de 6 mois, même vous pouvez considérer que c'est un délai qui est long, je comprends. Hein, alors, peut-être pas pour les menaces et les violences, c'est un délai beaucoup plus rapide. Mais s'il n'y a rien, vous êtes en droit de nous envoyer un mail. Et moi, je suis dans l'obligation de vous dire, ben, c'est toujours en cours auprès des gendarmes. On fait faire des vérifications. Nous avons classé la procédure. Et on vous explique pourquoi.
Voilà, c'est ce que vous nous dites, monsieur le procureur. C'est que l'important, c'est qu'il y ait une réponse. Ça peut être un rappel à la loi, parfois, sur des petites choses.
Voilà, bon. Alors, là aussi, vous voyez, vous enfoncez des portes ouvertes, j'allais revenir. J'ai parlé de la limite du protocole. La limite du protocole, c'est quoi ? C'est la loi. Ce n'est pas parce qu'on me dénonce des infractions, y compris commis au préjudice des maires, que je vais renvoyer la personne devant le tribunal et qu'elle va être condamnée à 12 mois de prison. Ferme avec mandat de dépôt et incarcération immédiate. Non. Je conserverai ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites et surtout le contrôle de l'enquête. Les policiers vont faire une enquête, alors pour des violences, pour des menaces. On ne retrouve pas l'auteur. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas pouvoir poursuivre des gens. On retrouve l'auteur, mais elle est irresponsable pénalement. Je ne vais pas pouvoir poursuivre la personne. On commet des menaces téléphoniques. Vous n'avez pas gardé les messages. Et la personne n'y les fait. Et il n'y a pas de témoignage. Je vais être obligé de classer. Voilà. Donc c'est ça. Le message que je veux lancer, c'est il y a ce protocole. Il est là pour faciliter la prise de plainte, la dénonciation des faits, l'AMF, la boîte mail, les gendarmes, les policiers, le 17, les numéros dont on vous a parlé. Hein, mais il y aura toujours cette limite. Est-ce que les faits qu'on reproche à X ou Y sont établis ? Je prends un autre exemple aussi. Et ça, c'est vraiment... ce qu'on voit dans beaucoup, beaucoup de dossiers. On commet des menaces, des violences, à raison de votre qualité d'élu. Notre premier travail, enfin, un de nos premiers travaux, ça va être de déterminer si la personne qui a commis des violences ou des menaces avait conscience de votre qualité. Voilà. Vous êtes maire d'un petit village de 300 habitants. Il y a un touriste australien qui ne vous a jamais vu, qui ne vous a, c'est même pas qui vous êtes, qui commet des violences avec ITT de moins de 8 jours. Alors vous allez dire, j'ai été frappé. Hein, mais moi, je n'arriverai pas à démontrer que la personne...
Si vous n'aviez pas votre écharpe tricolore...
on en est là. Hein, voilà. Alors c'est évident que nous, on va faire une enquête. On va vérifier si la personne, elle est là depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, si elle est venue au vœu du maire, si elle a participé à la fête au village. Enfin, vous voyez, c'est des petits détails, mais parfois, dans les dossiers, je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Et donc, on va pouvoir dire, oui, c'est des violences contraventionnelles, mais je ne pourrais pas passer à la phase délictuelle, hein, puisque, c'est un peu du droit, mais... C'est plus grave au niveau de l'échelle des peines et des sanctions de frapper un élu que de frapper un quidam. Comme c'est plus grave de frapper son épouse, un enfant de moins de 15 ans. Voilà, c'est l'échelle des peines. Hein, mais je suis quand même contraint à ce que l'enquête judiciaire que je mène me prouve, me détermine par A plus B de façon absolue hein, qu'on a attenté à votre qualité de maire et d'élu. La loi aussi, on parlait tout à l'heure aussi de vos proches. Hein, donc, il y a eu des affaires hein, pendant les émeutes où on a lancé un véhicule, c'est un Saint-Brévin, un Brévin, voilà, Saint-Brévin.
Brévin-les-Pins, voilà. Bon. Contre, on a voilà. Incendié le véhicule, incendié et on a essayé d'incendier la maison.
Voilà,
du maire.
Et dans la maison, je crois qu'il n'y avait pas de maire, mais il y avait sa conjointe, ou il y avait ses enfants. Bon. Donc là aussi, il y a une circonstance aggravante, puisque les auteurs ont attenté aux proches, mais dans le but de vous viser à vous. Hein, on a, voilà. Donc là aussi, on doit démontrer que l'acte qui a été commis, voilà, sur la femme du... Voilà, c'est un peu cliché, la femme du maire, bon, ou le mari de la mairesse. Hein, bon, voilà, mais il faut qu'on prouve qu'on a fait ça en raison de votre qualité. J'ai eu une affaire aussi, il n'y a pas longtemps, où un homme a commis des outrages sur un maire, hein, mais ils étaient amis depuis 45 ans. Et la personne a dit, je lui ai dit, je ne sais plus, une insulte, voilà, mais je n'ai pas visé sa qualité de maire. Vous voyez, c'est très fin, hein, c'est très fin comme distinction, hein, mais il y a un grand principe en droit pénal, c'est le doute profite à l'accusé. Le doute profite au gardé à vue, le doute profite au prévenu. Hein, et si je n'ai pas des éléments supplémentaires à produire au tribunal, je suis ce qu'on appelle relaxé. Voilà, et donc...
voilà, rappelez les principes, voilà. Et vous avez raison, c'est qu'on est dans un état de droit, hein, il ne s'agit pas de se venger, mais il s'agit d'avoir une réponse proportionnée, mais surtout d'être en veille et de se dire derrière cela, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on doit faire, et peut-être là justement aussi de pouvoir cet après-midi répondre aux questions que vous vous posez, aux précisions que vous souhaiteriez avoir. Alors, il y a toujours nos deux micros qui sont dans la salle. N'hésitez pas à intervenir. Vous avez la chance d'avoir vos interlocuteurs qui vont répondre aussi précisément que possible sur des choses où on peut dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, avant peut-être qu'il y ait une première question, c'est aussi, et je le disais, des actions de prévention, hein, que vous avez mis en place, alors, dans la relation aux usagers, pour les élus, mais aussi les services municipaux.
Oui, tout à fait. Nous travaillons actuellement côté police pour développer une formation à la gestion des comportements violents et à la désescalade des conflits. Donc c'est une formation qu'on proposera donc aux élus de notre zone de compétence, bien sûr les maires, les adjoints aux maires, les conseillers municipaux, et même au-delà, si vous le souhaitez, ça peut être des agents municipaux particulièrement exposés, je pense à des agents d'accueil en mairie.
Au guichet, effectivement, quand en plus, bon, les gens sont impatients et souvent exaspérés, il faut pouvoir répondre, il y a des techniques, il faut les apprendre.
Ouais, donc on travaille actuellement, on a un officier de la DDSP s'est formé, hein, pour pouvoir dispenser cette formation. C'est une formation qui a été conçue par le RAID, qui d'ailleurs plus précisément par le groupe de négociation du RAID, et qui vraiment a été adapté aux violences et aux incivilités et aux menaces que vous pouvez subir dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Alors, c'est une formation qui est concentrée sur une demi-journée, hein, par groupe de 7 ou 8, et après quelques données théoriques, elle s'appuie surtout sur des mises en situation, des jeux de rôle. Donc des clés sont données sur la posture à adopter, la communication verbale, non verbale, l'écoute active. Voilà, donc ces mises en situation portent sur des contextes que vous, en tant qu'élu, vous pouvez rencontrer au quotidien. Tout simplement des administrés qui ne supportent pas une décision municipale, donc un refus de permis de construire, un changement dans le plan de circulation de la commune, une création de nouvelles routes, ou des tensions, c'est pas un cas d'école, hein, mais des tensions engendrées par l'occupation illicite de terrain. Donc vous voyez...
Et malheureusement, tous les maires ont en mémoire ce qui arrivait à leurs collègues de Signes, hein, des décharges de déchets de chantier dans le Var, et le ton est monté, l'usager a reculé et a tué, blessé mortellement le maire. Ce sont des choses pour lesquelles, eh bien, il faut être préparé à cette gestion de conflit, à la réponse à apporter. Et puis, malheureusement, à faire de la prévention. sans abdiquer aussi le pouvoir de police qu'ont les maires aujourd'hui.
Donc, cette formation, elle vise quand même à faire baisser la tension, hein, au moment où malheureusement vous la subissez au cours de vos fonctions. Quelques techniques qui permettent de permettre un retour au calme de la personne. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que parfois il y aura une impunité derrière, hein, s'il y a eu des paroles qui étaient inacceptables, des outrages qui ont été prononcés. Mais au moins, certaines techniques qui sont éprouvées, hein, permettent de vous donner quelques clés, hein, clés à la fois de lecture, de gestion et surtout de résolution de la situation de violence à laquelle vous pouvez être malheureusement confronté.
Colonel Laudet, du côté gendarmerie aussi, hein, il y a tout ce travail de formation à la gestion de conflits et à ces réponses à apporter au plus près des usagers quand on est dans une situation un peu dramatique.
Oui, effectivement. Donc l'année dernière, je crois avant l'été, j'étais pas encore arrivé, il y avait une formation qui avait été proposée, qui avait été suivie par de nombreux maires et premiers adjoints, et qui avait été organisée, je crois, par un ancien du GIGN pour vous apprendre à mieux gérer, traiter ces situations de crise. Donc on reviendra vers vous peut-être début 2024 pour vous proposer une nouvelle session de formation qui est généralement sur une demi-journée ou une journée et voilà, qui vous permet d'avoir quelques clés pour aborder une situation de crise.
Alors, qui souhaite intervenir ? Moi, je vais vous poser une question à tous. Est-ce que vous avez le sentiment, l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, ce risque, il augmente ? Est-ce que vous pouvez le mesurer ? Qui pense que ce risque, il est aujourd'hui en augmentation ? Vous levez la main, ceux qui ont ce sentiment ou qui en ont déjà malheureusement eu l'expérience. Voilà, le micro arrive jusqu'à vous, madame.
Bonjour, Madame la Préfète, messieurs.
Ceux qui ne vous connaissent pas, voilà.
Je me présente, je suis Madame Froidefond, maire de Vire-sur-Lot. Je suis donc la première maire femme élue dans un secteur d'hommes et j'avoue que je suis très mal perçue en tant que femme. Et on me le fait sentir tous les jours, et plus par mon équipe, par les élus, que par les habitants de la commune. Donc, j'ai subi depuis 3 ans harcèlement, outrage, des articles de journaux, bien sûr, qui n'hésitent pas à me salir, à salir ma famille, ça va même très loin. Je passe sur les provocations verbales et les menaces verbales, puisqu'il n'y a pas de preuves. Par contre, j'ai déposé une plainte, effectivement, qui a été faite auprès de monsieur le procureur. J'ai été entendue par les messieurs de la gendarmerie, que ça s'est très bien passé, que je remercie d'ailleurs de leur présence. Mais la question que je voudrais poser, c'est savoir quel est le délai entre le moment où nous déposons la plainte et la décision finale qui est donnée à cette affaire. Parce que si ça arrive en 2026, je n'aurai plus besoin ni de procès, ni d'être entendue par qui que ce soit. Parce que probablement, vu comment ça se passe, malheureusement, même si j'aime ma fonction de maire, il est fort possible que je ne me représente pas, comme beaucoup de mes confrères, à cause de toutes ces situations. J'aime mon mandat de maire, j'aime ce que je fais. Je suis très présente sur ma commune et beaucoup de mes confrères peuvent en témoigner. Je fais tout ce que je peux. Je reçois sans rendez-vous qui que ce soit sur ma commune. Je règle les conflits. Je pense à la sécurité de la commune en premier. Donc j'aimerais avoir un soutien de vous, messieurs et mesdames, vous qui nous représentez dignement et hautement plus important que nous, mais on a besoin de votre soutien, on a besoin de vous pour nous aider, on se sent largué, en un mot, on se sent largué les maires dans nos petites communes. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci.
Et je compte sur vous.
Merci de ce
beaucoup.
Témoignage.
Merci, monsieur le procureur.
Alors, avant de répondre sur les délais, madame la préfète, on a quand même progressé aujourd'hui, mais des faits aussi qui tiennent au genre encore et des petites choses du quotidien qui exaspèrent le climat politique local. Madame la maire nous dit, bon, c'est parce que je suis une femme, en clair, que j'ai des problèmes aussi avec déjà ses collègues du conseil municipal. Or, c'est des choses qui devraient être derrière nous, tout ça.
Je crois au contraire qu'on peut tous constater dans cette salle que le niveau des incivilités augmente. Ce n'est pas faute de les combattre, ce n'est pas de faute de faire l'éducation et les formations nécessaires, mais il est vrai que nous avons un climat effectivement qui tend à être plus agressif. Donc d'où la nécessité et la mobilisation par les services de l'État, du protocole aussi atteinte aux élus. On insiste sur ça, il faut vraiment utiliser tous les outils, parce que dans le cas où il se passe quelque chose, on peut activer les outils qui ensuite peuvent conduire à des actions rapides ou à des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la loi et qui prennent un temps nécessaire.
Alors ce temps nécessaire, le temps de la justice, monsieur le procureur.
Alors avant de répondre, madame le maire, quand j'entends votre discours, ça renforce l'idée que j'ai de vous en général, c'est que vous faites une fonction très difficile. Avec une remise en cause de l'autorité, et pour parler sous le couvert de messieurs de la police et de la gendarmerie, soyez rassurés que ça nous concerne aussi, même à titre personnel. Hein, on est remis en cause tous les jours, il y a de plus en plus d'outrages sur les policiers, sur les gendarmes, sur les magistrats. Aujourd'hui, il y a un procès à Agen qui a été délocalisé, où moi-même j'étais menacé de mort, la juge des enfants de ce tribunal. Voilà, donc
ça concerne tous les détenteurs de l'autorité
publique. Et de plus en plus, nous représentons la République. Hein, et donc, il y a des gens qui veulent déstabiliser la République, qui ne croient pas à la République, pour X ou Y raison, qui voudraient même destituer la République, et qui s'en prennent à nous, physiquement, verbalement. Donc, quand j'entends vos discours, je le partage, je le déplore. Je ne peux pas dire le contraire aujourd'hui, cet après-midi, mais c'est tellement évident, quand même, que j'ai voulu le faire. La deuxième chose, sur le délai, autre récrimination qu'on fait à la justice, c'est ça, lenteur. Après, il y a une lenteur en matière d'exécution d'une enquête. Je pourrais faire une enquête rapide et finalement, à la fin, être obligé de classer. Donc il faut que je trouve avec les policiers et les gendarmes un délai, je veux dire, normal pour permettre la résolution d'une affaire. Ça servirait à quoi d'être rapide dans une affaire et finalement arriver avec rien. Bon, alors je vais pas botter en touche pour pas vous répondre, mais moi je suis pas venu spécialement aujourd'hui pour répondre à des affaires personnelles. Hein. Si vous avez besoin, Madame le Maire, je crois même que vous m'avez déjà envoyé des mails. Vous demandez à ce que je vous reçoive. Je viens à mairie, Monsieur Mazaz vient vous voir et on le fera peut-être pas tous les 4 matins avec les 300 maires, puisque j'ai aussi, comme tout le monde, un petit peu des actions. Bon, après, donc pour vous donner ces explications, pour vous donner ces délais. Après, j'ouvre aussi, alors je me pose moi-même les questions, donc je lance le débat. Il y a des infractions et il y a d'autres infractions. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous êtes aussi confronté à tout ce qui a trait maintenant aux réseaux sociaux, à Facebook, à Twitter. Vous êtes un mauvais maire, vous êtes incompétent, vous êtes ci, voilà. On est en train de. Il se trouve que dans la totalité des tribunaux de France, donc là je m'engage publiquement, les atteintes à l'honneur ne sont pas poursuivies. Voilà, donc là, peut-être ça va peut-être vous insurger. Les atteintes à l'honneur ne sont pas poursuivies. Tout ce qui est injure et diffamation. Alors les injures, c'est peut-être une autre chose, parce que dès qu'on dépasse l'injure, on est sur un outrage à la personne dépositaire d'autorité publique, et là, on agit. Mais quand on remet en cause votre action, quand vous évoquez, Madame le maire, ce que pourrait avoir comme propos sur votre compétence, votre probité, enfin, d'autres choses, vos collègues, on ne poursuit pas, mais on laisse la possibilité aux maires, hein, donc là, ils peuvent aussi prendre contact avec l'AMF, d'actionner vous-même le tribunal. Voilà, ça s'appelle une constitution de partie civile, et donc vous pouvez saisir le tribunal vous pouvez contacter l'AMF, et d'ailleurs je crois que l'AMF aussi l'a fait, a aiguillé aussi pour ça. Pourquoi on ne poursuit pas les atteintes à l'honneur? Ben parce qu'il n'y a pas assez de juges en France. C'est aussi bête que ça. Si je poursuivais les atteintes à l'honneur, je ne pourrais pas poursuivre les viols, je ne pourrais pas poursuivre les meurtres, je ne pourrais pas poursuivre des infractions un peu plus graves. Et je conçois que dans votre action municipale, hein, quand vous avez toujours le même qui vous discrédite, etc. Bon, après, il y a ce que vous avez parlé du harcèlement. Voilà, le harcèlement, là, on est quand même dans des infractions beaucoup plus graves, hein, même si le harcèlement que vous évoquez est une infraction. Donc là aussi, je parle sous le couvert de chefs de service, mais qui sont aussi officiers de police judiciaire. C'est une infraction qui est très difficile à caractériser, puisque le législateur a dit que est un harcèlement le fait d'harceler. Voilà. Donc c'est genre, je dois me débrouiller avec ça. Voilà. Donc il y a des. Il faut que je prouve au tribunal, oui, harcèlement, il a été harcelé. Voilà. Donc c'est quoi? C'est des gens qui vous envoient des dizaines et des dizaines de mails, qui vous discréditent, qui vous. Plein de comportements. Voilà. Bon. Là aussi, c'est pris en compte, hein, avec aussi cette masse d'infractions que j'ai à traiter.
Et puis là encore, et je me tourne vers le colonel de gendarmerie et le commissaire de police, c'est que ça peut être une alerte, un prémisse de quelque chose, d'un passage à l'acte aussi, et c'est pour ça que vous y êtes très, très attentifs les uns et les autres.
Oui, tout à fait, oui. Non, c'est vrai que là-dessus, mais bon, la démarche de Mme le maire a été la bonne, de s'adresser à son commandant de brigade. Donc à partir de là, effectivement, on est en mesure de recevoir Mme le maire, de la conseiller, et puis en liaison avec M. le procureur, de voir quels actes d'enquête il faut effectuer.
Qui souhaite intervenir, demander des précisions ou témoigner de ce que vous vivez? Alors, voilà, juste au-dessus de vous.
Bonjour, je m'appelle Lanjou Charles, je suis adjoint à la mairie de l'Albinque et je voulais vous indiquer un outil que nous a donné lors d'une rencontre avec la gendarmerie. C'est l'application Jean d'Élu. Et cette application est formidable en ce sens qu'elle nous donne des outils et notamment des fiches réflexes. Voilà, c'était juste pour vous en informer.
Alors ces fiches, elles sont facilement accessibles, mon colonel ?
Effectivement, c'est une application, tout simplement. Vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable, Jean d'Élu. Après, vous avez un certain nombre de renseignements lorsque vous êtes confronté à différents contentieux. Donc oui, c'est une application, comme dit monsieur, qui est très pratique et très conviviale, d'ailleurs.
Alors, le micro continue à circuler. Et il redescend vers vous. Oui, allez-y.
Oui, si vous permettez, parmi les outils, hein, je voulais également évoquer une plateforme, la plateforme Pharos, ah ouais. qui est mise à la disposition de tout le monde, pas simplement les élus. C'est une plateforme qui est gérée par la direction centrale de la police judiciaire au niveau national. Ça permet de dénoncer tout ce qui est atteinte et menace en ligne. Alors quel est l'intérêt de cette plateforme? Vous me diriez, bon, vous pouvez aussi, et vous pouvez faire les deux d'ailleurs, vous pouvez venir dénoncer les faits, déposer une plainte dans un service de police ou de gendarmerie, mais la plateforme, c'est un outil qui permet de faire des recoupements sur différents signalements identiques, de voir si la source est la même. Elle permet aussi très rapidement de bloquer des sites malveillants, de faire cesser l'atteinte en particulier. Voilà. Ailleurs, après, elle se concrétise aussi par l'ouverture d'une enquête judiciaire, puisque derrière cette plateforme, ce sont des policiers et des gendarmes, d'ailleurs, puisque c'est une plateforme mixte, donc des policiers et des gendarmes, qui vont saisir le service territorialement compétent. Donc c'est tout simple, c'est sur Internet, la plateforme Pharos.
Merci. Monsieur.
Oui, Jean-Philippe Beson, je suis adjoint à la commune de Sonnac dans le Lot. Je voulais savoir en quoi consiste le pouvoir de police du maire dans des communes de moins de 100 habitants qui ne possèdent pas ni de commissariat de police, ni de police municipale, ni même de garde champêtre. Nous nous retrouvons avec des des dépôts sauvages de voitures sur des terrains communaux, organisés par des bandes roumaines, que nous contactons et qui nous disent « Ne comprennent, comprends pas, moi comprends pas ». Voilà, c'est tout ce qu'on peut en tirer. La gendarmerie intervient comme elle peut. Ça recommence un an après. Alors, ils ont déplacé d'un terrain, ça part sur un autre, toujours des terrains communaux, des bords de route, des chemins sur lesquels ils bloquent aux trois quarts l'accès. J'avoue que si les pompiers doivent passer, c'est impossible. Et on a toujours la même réponse, je ne comprends pas. Donc, on a des animaux, on a des barrières de palettes, de plastique. Vous ne pouvez pas imaginer les bidonvilles que nos communes sont en train d'accepter. Enfin, on ne les accepte pas, mais on les subit. Et quel est le pouvoir du maire là-dessus? Je peux faire quoi?
Alexandre Rossi, monsieur le procureur.
Donc, vous faites le 17?
C'est fait. Bon. Ça recommence.
Alors, bah oui, mais bon. Alors, il y a le 17. Nous, il faut... Alors, vous pouvez prendre la plaque. La plaque immatriculation.
Il y a 50 à 60 voitures. Hein.
Bon, oui. Bon, alors, il faut trouver... Pour trouver
bien, une... Moi, je veux bien.
Voilà. Enfin, le 17, le dépôt de plainte. Et comme j'évoquais tout à l'heure, le protocole justice de proximité... avec l'adresse mail, les dépôts sauvages, ça fait partie des infractions les principales. Donc, voilà. Alors, le pouvoir du maire, dans ce cas-là, c'est de me signaler les faits. Là, c'est quelle commune, vous m'avez dit ?
Commune de Sonnac, avec un seul N, bon, alors, à côté de Livernon et d'Acier.
D'accord, d'accord. Bon, mais là, vous voyez, c'est bien d'en parler, puisque je ne suis pas au courant de ça. Avant, et si vous aviez fait, ben voilà, c'est un des avantages de cette réunion, vous pourriez me dire, voilà, je vous ai dénoncé ça, monsieur le procureur, qu'est-ce que vous avez fait? Là, je ne peux vous rien vous dire, puisque je ne suis pas au courant. Donc, on est dans le meilleur des mondes, hein, évidemment, on est dans le meilleur des mondes. Bon, après, moi, il faut que je retrouve les gens, il faut que... Bon, alors, pour les dépôts sauvages, ma politique pénale, moi, elle est pas compliquée. C'est donc de faire enlever, ou alors quand c'est la mairie, on a fait avec une commune, je crois, M. Mazal, c'était Pradine, voilà. On fait payer la note de la décharge, du gasoil, du ramassage. Hein, bon, la personne ne veut pas payer, c'est pas grave, elle passe en correctionnel ou dans le tribunal de police. Voilà. Bon, donc c'est parfois mieux d'éviter un procès, mais que la collectivité soit. Voilà. Si on sait qu'en plus dans votre commune, on a un maire qui ne joue pas au shérif, mais qui quand même dénonce des faits qui sont un petit peu, vous savez, les faits au-delà du spectre, mais qui quand même nous enquiquine tout le monde, hein, crée un sentiment d'insécurité, un sentiment d'impunité dont on parlait tout à l'heure, ces petits gens de méfaits, voilà. Donc, c'est pas grave, on va peut-être pas vous envoyer en correctionnel devant le tribunal, mais vous allez payer, voilà. Et après, même si ils ont du mal à parler le français, ils savent quand même compter.
Il y a un petit élément également qui peut être intéressant et n'allez pas vous exposer face, si vous arrivez sur les faits, hein, vous exposer à de la violence physique, mais surtout avoir le réflexe de prendre une photo. Puisque pour la suite et notamment la phase judiciaire, parfois on n'est que sur la contravention, mais ce n'est pas grave, ça reste du pénal. Et la preuve par la photo, c'est imparable.
Oui, donc ouais, je rebondis, c'est de ne pas s'exposer. Vous n'êtes pas les valets entre guillemets de la police, de la gendarmerie.
Vous l'avez dit, pas jouer le shérif. Hein,
pas jouer le shérif. Voilà, je l'ai
mais,
dit.
Mais en même temps.
C'est très péjoratif hein, ce que j'ai ouais. dit, hein, je conçois. Mais de parfois nous donner le petit commencement. Voilà. Moi, je vous ai dit la plaque d'immatriculation. Monsieur le commissaire vous a dit éventuellement une photo. Ça peut être une description. Hein, parce que parfois. Vous savez, nos voyous, ils sont très malins. Hein. Ils disent, c'est pas moi, j'avais un t-shirt rouge alors qu'il était bleu. Un descriptif, il avait un pantalon rouge et un haut noir et des moustaches, vous voyez. Bon, si on a un suspect qui a pas de moustache, et voilà, donc de nous donner quand même, sans vous exposer, hein, comme on disait, s'exposer à cette violence, quand même le début de commencement d'un élément de preuve que nous utiliserons après.
D'autres, voilà, le micro est de ce côté. À vous, madame.
Bonjour, Sylviane Tison, je suis le maire d'une petite commune rurale
en sud du Lot, Belmont-Sainte-Foy, qui a un château en restauration, je tiens à vous le dire. Donc, je voudrais témoigner. D'abord, j'aurais voulu bénéficier de tout ce dispositif quand j'ai été confrontée en 2015 à une affaire extrêmement grave dans ma commune et pour laquelle j'ai subi des violences, des agressions. Donc, je salue l'évolution de la prise en charge du dispositif, etc. Je remercie à l'époque la gendarmerie parce que sans elle, ça aurait été très dur pour moi. Je ne parlerai pas de l'affaire, mais je me pose la question aujourd'hui. Quelle est la place de la victime dans notre justice? Quelle est la place de la victime? Et là, l'affaire a été jugée, la peine est dépassée maintenant, et j'ai été interpellée par un de mes habitants qui a été malheureusement confronté à l'affaire en me disant « Rappelle-toi, Sylviane, parce que dans l'affaire, j'étais témoin à charge, rappelle-toi, Sylviane, ce qu'a dit le psychiatre à la fin lorsqu'il est intervenu, il y a un risque de récidive. » Et aujourd'hui, j'en profite que vous êtes tous là, je ne sais pas à qui parler, parce que je suis dans la crainte encore qu'il arrive quelque chose sur ma commune. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci de votre témoignage, monsieur le procureur.
Récrimination numéro 3 envers la justice. La justice ne se préoccupe pas suffisamment du sort des victimes. Bon, pour être un professionnel, je cite encore l'association France Victimes 46, c'est pourtant un cliché qui est totalement faux. Notre premier réflexe, quand on est... On ne va pas parler des autres affaires, mais des affaires où des élus sont victimes. Le premier réflexe, c'est la sécurisation de la victime. Est-ce que, tout à l'heure, je vous parlais du délai incompressible d'enquête, est-ce qu'il vaut mieux faire une enquête sur le long cours pour constituer des éléments à charge, ou d'abord, est-ce qu'il faut sauver les intérêts de la victime? Et c'est un dialogue qui est fait avec l'enquêteur et parfois avec l'association de France Victimes. On se préoccupe d'abord de la victime, et bien il faut aller interpeller l'auteur tout de suite. Et ensuite, on se dépêchera durant le temps de la garde à vue pour faire l'enquête. On saisit, je répète encore une fois, l'association France Victimes 46. On prend des mesures, par exemple, quand on demande des détentions provisoires, c'est pour préserver les intérêts de la victime. Quand on demande des contrôles judiciaires, c'est pour préserver l'intérêt de la victime. Il y a des expertises psychologiques, psychiatriques sur la victime. Il y a des avocats aussi sur la victime. On pense toujours que l'avocat, c'est réservé à l'auteur, au voyou, au présumé coupable, au présumé innocent. C'est pas vrai. Les victimes ont droit tout autant à l'avocat. Hein, et l'avocat qui est là aussi encore plus que l'AMF ou encore plus que les associations d'aide aux victimes, pour vous aiguiller, pour vous aider. Bon, alors, Madame le maire, vous évoquez une affaire, j'ai bien compris, qui vous touche encore actuellement. Bon, je ne sais pas si vous voyez encore votre agresseur, ou je n'ai pas trop compris. Bon, mais si c'est le cas, là encore, au-delà de votre déclaration émouvante, il faut porter ces faits à ma connaissance. Hein, j'extrapole peut-être, hein, je ne sais pas, hein, mais si cette personne, vous la recroisez, elle vous regarde de façon insistante, bon, ça s'appelle du harcèlement, ça s'appelle des menaces, et ça s'appelle, on me dénonce des faits, ou on passe par l'AMF, ou on fait le 17, ou, voilà, tout ce dispositif, hein, pour éviter que, je vois que ça vous peine, hein, vous parlez avec beaucoup d'émotions. Hein, qu'on puisse agir. Moi, je ne peux pas agir sans que je sois saisi. Enfin, c'est bête ce que je dis, mais encore faut-il qu'on me dénonce des faits. Et après, c'est mon affaire de dire si des infractions ou pas. C'est mon affaire de saisir un service de police judiciaire. Et c'est mon affaire de casser, de renvoyer ou de faire ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites. Et là, je rebondis. Tout à l'heure, monsieur le journaliste a... Enfin, pardon.
Oui.
Voilà. Bon. On parlait des rappels à la loi. Bon. Alors, le rappel à la loi, c'est considéré un petit peu comme rien du tout. Bon. Ça n'existe plus, les rappels à la loi. Ça a été supprimé par le garde des Sceaux, par une loi. Je n'ai plus le droit de faire des rappels à la loi. C'est remplacé par l'avertissement pénal probatoire. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de poursuite... Mais la personne, il va y avoir un suivi. Et surtout, cet avertissement pénal probatoire, ce n'est pas inscrit au casier judiciaire, mais c'est inscrit sur mes fichiers. Bon, c'est inscrit sur les fichiers de la police et de la gendarmerie. Et je peux vous dire que quand une personne fait l'objet donc, d'un APP ex-rappel à la loi, c'est pendant 6 ans le délai de prescription, ce qu'on appelle le délai de prescription, je peux réviser ma décision. Donc la personne, on lui dit, voilà... on vous a averti, on vous a dit que c'était cette insulte que vous avez eue, vous avez un avertissement pénal probatoire. Si dans un délai de 6 ans vous commettez une autre infraction, je vous poursuivrai pour ça. Voilà, je vous poursuivrai pour ça.
C'est bien comprendre l'esprit de la loi. Puisque vous évoquez l'accompagnement des victimes, on pourrait peut-être passer le micro à Alexia Mesté qui est La cheville ouvrière de France Victimes. Voilà, le micro arrive jusqu'à vous, madame. On a parlé aussi du rôle de l'association des maires aussi, hein, qui va être aux côtés des élus. Mais dans cet accompagnement des victimes, votre association est tout à fait active.
Oui, on est une association à vocation départementale, avec le siège effectivement à Cahors. Mais on peut se déplacer sur tout le département. On propose donc une écoute privilégiée des victimes d'infractions pénales, toutes sortes de victimes. On est aussi saisi par monsieur le procureur sur des dossiers bien spécifiques. Donc on propose un accompagnement juridique et aussi psychologique. Voilà. Et on est là sur toute la phase judiciaire et aussi après jugement pour expliquer à la victime les démarches qui restent à accomplir.
Merci de cette présentation. D'autres interventions, prises de parole. Ce qu'il faut bien comprendre, madame la préfète, c'est que c'est un changement de culture hein, par rapport à ces sujets. Et puis, c'est aussi une prise de conscience collective de la fragilité de notre société, finalement, aussi, et du rapport à l'autorité.
Oui, tout à fait. Je crois que la présentation de Jérôme Fourquet tout à l'heure, elle était très éloquente sur les transformations silencieuses qui peuvent être à l'œuvre dans le pays, notamment sur l'unité, sur les valeurs qui sont celles de la République et qui doivent nous rassembler. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mettais l'accent sur le fait que pour l'État, pour les élus, on doit avoir cette mobilisation constante et cette vigilance constante sur le sujet du respect et de l'immunité. Immuabilité des valeurs, parce que c'est ce qui est le fondement de notre République et de notre démocratie. Je crois que le débat, il a été très riche, parce qu'il a montré d'une part une très grande attention et une réalité de ce fait à travers les témoignages qui ont été apportés et qui montrent qu'en particulier certaines d'entre vous, mais aussi sont très atteintes par ce qui leur arrive dans l'exercice de leurs fonctions, et c'est tout à fait normal, parce que le métier de maire et le métier d'élu, c'est un métier qui est extrêmement difficile, qui est un métier qui est, on dirait...
Métier entre guillemets, d'ailleurs.
Voilà, non, mais c'est un métier et un mandat, mais c'est un métier au sens vous êtes en contact avec des citoyens, les citoyens viennent souvent vous voir parce qu'ils ont des problèmes, vous êtes confrontés à des degrés d'agressivité et d'incivilité qui sont très certainement de plus en plus forts, parce qu'on voit ce niveau d'incivilité et d'agressivité monter dans la société française, monsieur Fourquet le disait, moi-même je le constate, vous le constatez, je crois que les témoignages sont assez convergents. Comme je le disais, pour ce qui concerne le cas spécifique des élus, vous êtes une catégorie, si vous me permettez l'expression, que nous devons protéger avec un soin tout particulier, compte tenu des menaces qui peuvent se présenter contre vous, compte tenu des missions que vous exercez, c'est aussi simple que cela. Vous représentez un symbole, quelque chose, une institution dans la République. on est là avec l'État, avec les différents services, avec la justice, pour vous protéger. Et comme je le disais, ce qui est important, c'est le continuum. C'est-à-dire qu'on est là pour les signaux faibles, on est là pour les actions de prévention, on est là pour les actions de formation, on est là pour l'accompagnement avant même que vous ne déposiez plainte, et la protection et le déploiement des forces de l'ordre peuvent commencer avant même que vous ne déposiez plainte. On est là pour vous inciter à déposer plainte, parce que je le rappelle, le dépôt de plainte, c'est ce qui permet ensuite effectivement au procureur d'être saisi. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les différents outils dont le procureur vous a parlé. Il faut ensuite laisser la justice faire son travail. Et quand on est victime, il y a toute une série de dispositifs d'accompagnement, ceux dont on a parlé, mais aussi l'écoute au jour le jour que les services de l'État peuvent donner dans le département. Donc vous n'êtes pas seul, et c'est le message que je veux faire passer, c'est qu'on est à une très grande attention de la part de l'État sur, la façon dont les élus vivent leur mandat et la façon dont ils sont confrontés à ces difficultés et à cette agressivité. On y est très attentif, et donc n'hésitez pas, pour tout problème, à nous le signaler. Quand on en parle, c'est déjà le début d'un processus qui nous permet d'apporter les réponses qu'on peut apporter face à la situation à laquelle vous êtes confrontés.
Madame la préfète, merci de ces précisions. Merci, messieurs. Alors, on voit bien la nécessité de travailler avec les associations, avec en particulier l'association des maires et puis tous les acteurs de la sécurité.